I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip, Ricky.
Bieber left. 75, Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour le retour de l'émission podcast de Touchdown Actu. Une actualité, un rendez-vous quasiment quotidien, je dirais hebdomadaire, mais en ce moment ça va s'accélérer de plus en plus avec notamment le début des previews, position par position, en tout cas secteur par secteur. Et on va s'intéresser notamment au cours de cette semaine au backfield offensif et bien entendu, comme souvent, honneur aux stars offensives que sont les quarterbacks. Et vous savez qu'il y en a moult au cours de cette QV 2021 pour en parler avec moi dans cette émission. Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Grégory, salut Victor, bonjour tout le monde.
Et bonjour donc à Victor Roulier. Salut Victor.
Bonjour à tous.
Victor qui nous fait la gentillesse de nouveau d'être à la technique, donc on le remercie chaleureusement, puisqu'il y a des bras cassés qui ne savent pas s'en occuper et je ne citerai pas de nom. On va donc aborder dès à présent donc, le haut du panier sur ces postes de quarterback, le retour des valeurs sûres, même si ça reste un petit peu compliqué sorti du haut du panier, on en parlera tout à l'heure. Les énigmes, les pépites, le schéma habituel que vous retrouvez année après année dans cette dernière ligne droite qui nous amène à la draft 2021 prévue à la fin du mois d'avril. C'est parti donc pour les têtes d'affiche.
Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
Les têtes d'affiche, donc, on va découper en deux pôles de trois, messieurs, en commençant notamment par le trio de tête, un trio dont on avait parlé notamment dans le top 15 d'il y a quelques jours, Victor, en compagnie d'Alexandre Locke. Donc, je vous invite notamment à aller jeter une oreille là-dessus. Les quarterbacks, on en avait parlé également, en tout cas les têtes d'affiche, en l'occurrence, donc, dans ce trio, Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, Zach Wilson, quarterback de BYU, et Justin Fields, quarterback d'Ohio State. Messieurs, on avait donc notamment, on les avait également évoqués, pardon, par le biais de la rubrique « Tu préfères ». On va aborder ça d'un œil un petit peu différent. Je vais juste en profiter tout d'abord pour rappeler les stats importantes. Pour ceux qui ne les auraient pas, donc Trevor Lawrence, 2m01 pour 100 kg en 2020 à la tête de Clemson, c'est 3153 yards à la passe, 24 touchdowns, 5 interceptions. Zach Wilson avec BYU, c'est 1m92 pour 95 kg, 3692 yards, 33 touchdowns et 3 interceptions. Justin Fields, 1m92 pour 101 kg, c'est 2100 yards, 22 touchdowns et 6 interceptions. Ils ont tous joué donc en 2020, on le rappelle, hein, même si le calendrier notamment d'Ohio State et de Justin Fields était un poil plus léger, ce qui peut expliquer la différence notamment numérique. Mais je vais vous proposer un petit jeu, messieurs, si vous le voulez bien. On va faire un petit exercice de comparaison en vous positionnant justement dans la peau d'un general manager, savoir qui aurait vos préférences sur certains points précis pour éventuellement identifier les forces et les faiblesses des uns et des autres. Alors messieurs, si je vous demande notamment si vous deviez analyser le meilleur bras au niveau de ce trio de quarterback, vers qui irait votre préférence ?
Allons-y, je vais y aller en premier. Je vais parler de Zach Wilson. Je vais parler de Zach Wilson qui, pour moi, est le meilleur bras des trois. Je pense que les trois, globalement, ont un bras largement suffisant pour la NFL. On n'a clairement pas de joueur qui a une faiblesse à ce niveau-là. Zach Wilson m'a vraiment impressionné cette année sur les lancers profonds et surtout lorsqu'il a un équilibre un peu précaire. C'est lorsqu'il doit sortir de la poche, lorsqu'il doit lancer en courant, ce genre de choses. Là, il a vraiment fait la différence. Et s'il se retrouve dans des équipes qui ont une ligne offensive peut-être un peu difficile, au moins la première année ou les deux premières années, et qu'il y a besoin d'un quarterback qui, on va dire, est imaginatif, est en jeu, Zach Wilson sera la bonne personne. Et comme il est capable de faire les lancers dans ces positions-là, je pense que c'est quand même un de ses gros points forts.
Jean-Michel, ton point de vue ?
Ouais, je rejoins ce que dit Victor sur Zach Wilson.
Vous n'avez pas besoin d'étayer pas forcément. Encore une fois, il va y avoir plusieurs listes. Hein, donc voilà, si Zach Wilson, du coup, tu rejoins globalement Victor là-dessus, Jean-Michel ?
Alors, je le rejoins sur ce qu'il a dit, sur Zach Wilson. Après, moi, si tu me parles de meilleur bras, j'entends pas seulement le bras le plus puissant, ou pas seulement pour les deep, tu vois. Et donc, c'est, pour moi, le meilleur bras, c'est Trevor Lawrence. Parce qu'il peut faire le court, l'intermédiaire, le long, il peut tout faire. Plus que Wilson, plus que Fields. Donc pour moi, le
c'est
meilleur bras, c'est Lawrence.
Même, ouais. C'est celui qui est le plus à même de l'ajuster, on va dire.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, je rejoins ce qu'il a dit sur Wilson. Hein. Les lancers en déséquilibre, les lancers profonds, impressionnant. Hein. Mais pour moi, le meilleur bras, Lawrence.
Bah, tiens, Jean-Michel, je vais commencer par toi pour la deuxième question. La meilleure lecture qui te rassure le plus dans ce domaine ?
Ah ben pareil, Trevor Lawrence. Ouais, Trevor Lawrence. Alors après, c'est vrai que... Il n'a pas souvent eu besoin de faire plusieurs lectures, souvent dès la première, le jeu c'était bon pour lui. Mais c'est quand même...
On lui reproche un peu d'ailleurs hein, d'être très souvent attaché à sa première lecture.
Mais bon, en même temps, il était plutôt dominant avec son équipe dominante. Donc, et puis si ça fonctionne, pourquoi il va chercher autre chose quoi. Donc, donc oui, à la NFL ça sera différent, effectivement. Mais je suis quand même plutôt rassuré, et surtout par rapport aux deux autres. Parce que Wilson, c'est très précis, mais c'est quand même un sacré gambler. Et puis Fields, par contre, il y a un petit peu des restrictions à ce niveau-là. Donc, je mettrai quand même Trevor Lawrence sur cette catégorie.
Victor ?
Oui, moi, je suis assez d'accord. En fait, on peut parler de deux schémas qui sont sous pression ou pas sous pression. S'ils ne sont pas sous pression, il y a duel entre Lawrence et Fields pour moi. Sauf que ce qui fait la différence, c'est que sous pression... Lawrence va être quand même meilleur pour s'ajuster, donc je donne la préférence à Trevor Lawrence, notamment pour sa capacité à absorber la pression et quand même à réaliser le gros jeu.
Alors justement, tu fais bien parce que c'est plus ou moins lié. Pour vous, la meilleure gestion de la poche ?
Je m'excuse, mais Trevor Lawrence.
Un moment.
Ouais. S'il va être numéro 1, c'est pas pour rien.
Au moins, il n'y aura pas de débat.
Ouais, c'est
pas,
clair.
Pas sans ces points précis, en l'occurrence. Non. Mais oui, gestion assez correcte de la poche, même si Victor le disait. Il y a notamment le côté un petit peu facétieux de Zach Wilson, mais voilà, c'est plus dans un domaine un petit peu particulier. La meilleure mobilité.
Ça dépend, mobilité dans la poche ou mobilité en général ?
En général. Et alors du coup, je me permets, je vais inclure deux questions en une. Après, vous me direz si vous discernez les deux points. La meilleure mobilité, la meilleure capacité d'improvisation.
Alors moi, je dirais meilleure mobilité, je dirais Justin Fields. Je dirais Justin Fields parce qu'il a, il a un corps qui est excellemment bien bâti et il sait très bien s'en servir. Il est capable de bouger dans la poche, il est capable de bouger hors de la poche, il est capable de courir. Donc voilà, quelques réserves j'ai dit sur son jeu sous pression, mais globalement la mobilité pure je mettrais devant. Après l'improvisation, ça rejoint un peu, c'est vrai, le point d'avant, mais j'ai envie de dire Trevor Lawrence, c'est-à-dire que Zach Wilson est capable d'improviser des choses extraordinaires, mais sur 100 actions, le mec que je considère comme le plus fiable pour improviser, on va dire, dans les meilleures conditions et pour réaliser le plus de gros jeux, ça sera Trevor Lawrence. Donc je donnerai la mobilité pure à Fields et l'improvisation et la capacité à magnifier les actions à Lawrence.
Jean-Mi ?
Ouais, pas mieux, pas mieux. Ou peut-être Wilson quand même dans la poche, cette mobilité qu'il a dans la poche, où vraiment il arrive à s'échapper, à se contourner, à faire un petit pas en arrière ou de côté. Quand même, il est très très mobile dans la poche.
Ouais, ouais. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que tout dépend du profil de ce qu'on va rechercher. C'est vrai qu'il y a le côté un peu, entre guillemets, scrambler pour gagner du temps de Zach Wilson. Il y a le côté vraiment très, très élancé de Justin Fields. Et puis, il y a le côté presque, alors je ne sais pas si méthodique c'est le bon terme, mais voilà, on voit que Trevor Lawrence, il a quand même son gabarit. C'est pas un profil aussi élancé que Justin Fields, mais c'est vrai qu'il est parfaitement capable de le faire. Il l'a montré notamment, je pense, à la fin de la saison 2019, de mémoire, où il était très, très souvent utilisé, notamment sur le jeu au sol des Tigers.
Mais en demi-finale, il fait cette course de 40 yards.
Oui, bien sûr.
Donc, qui a été un moment où on s'est tous dit « Ah oui, quand même, il sait le faire, ça aussi. »
Oui, et qui a été décisif, qui a fait tourner le match en faveur de Clemson dans un match où les Tigers n'étaient pas au mieux. Donc, c'est sûr que cet aspect de son jeu est clairement pas négligeable. Le meilleur mental, du coup ?
Ah, Trevor Lawrence. Sans aucun doute, Trevor Lawrence. Je suis désolé, on parle beaucoup de Trevor Lawrence.
Ah non, non, encore une fois, après, c'est le jeu. Hein. Moi, si vraiment il y a beaucoup de catégories au ressort du lot, c'est pas un souci. Hein.
Il aurait presque fallu le mettre dans une catégorie à part. Mais là, donc, si on parle du mental, il faut quand même savoir que ce gars-là, depuis qu'il a 14 ans, il est sous les feux des projecteurs. Je veux dire, vous verrez sur la fiche draft, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je montre des images, justement, il a 14 ans, il y a déjà la télé qui l'interview. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis qu'il a 14 ans, tout le monde le scrute, tout le monde vraiment le met en grand écran et il répond à chaque fois. Il a répondu au lycée, puisqu'à 14 ans, il n'était pas encore au lycée, hein, c'était avant le lycée. Au lycée, il a tout fracassé, il est à l'université, il a tout fracassé. Enfin, vraiment, au niveau mental,
c'est le genre d'athlète qui... Je vais faire une comparaison tennis, mais je repense aux petits as d'il y a une vingtaine d'années où c'était Gasquet contre Nadal et tout le monde disait « ça va être les deux meilleurs joueurs du monde ». Bon, il y en a un des deux qui a mieux réussi que l'autre, mais voilà, c'est pour dire, Lorenz, c'est comme Nadal, c'est depuis qu'il est petit, on dit tout le temps qu'il va être le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs, et à chaque fois, il répond présent, donc on se dit, quand t'as appris à gérer la pression depuis si jeune, il y a un moment, plus rien ne te fait peur.
Oui, normalement, ça doit... c'est aussi ce qui en fait pour beaucoup le talent générationnel. Andrew Luck était un petit peu, en effet, dans cet état d'esprit-là, où on avait l'impression que ouais, il pouvait tout se passer de toute façon, ça n'allait pas impacter le jeu suivant ou les jeux d'après, quoi. Donc c'est là-dessus. Juste pour info, Jean-Mi en parlait, les fiches draft, on vous rappelle, hein, vous les retrouverez à partir du 20 mars à l'écrit, et il y a de fortes chances en effet que Trevor Lawrence soit dans les premières fiches évoquées. On peut déjà évoquer ce spoiler. La plus grosse marge de progression,
moi je dirais Zach Wilson. Déjà par rapport à l'opposition qu'il a eue à BYU, c'est-à-dire qu'il était dans une équipe qui dominait ses adversaires, mais l'opposition elle était plutôt moyenne. Et puis même le système de jeu, je pense que pour tous les quarterbacks, il y aura forcément une progression à faire, puisque les défenses sont beaucoup plus expérimentées, qui vont feinter les jeux avant l'engagement. Mais pour Zach Wilson, ça va être encore plus, il y aura encore plus de travail pour lui. Et je pense qu'il a cette marge de progression justement.
Ouais, je rejoins, je pense que c'est, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il a la plus grosse marge de progression, mais il est peut-être celui qui part du plus loin aussi, donc c'est vrai que il est moins prêt que les deux autres, en tout cas si on devait le faire commencer aujourd'hui, mais quand on voit la progression qu'il a eue cette année, on en revient, c'est la comparaison bateau, hein, mais son plafond en style de jeu, c'est Mahomes. Je dis pas qu'il arrivera au niveau de Mahomes, parce que si tout le monde arrivait à ce niveau-là, ça se saurait. Mais c'est ce genre de progression qu'on peut attendre.
Oui, c'est ça, en termes de style de jeu et de manière d'être explosif comme peut l'être
du fait de partir de loin, parce que Mahomes, quand il est drafté, il part de plus loin qu'un Deshaun Watson. Enfin, en tout cas, dans la manière dont on l'avait évalué à l'époque, on pense qu'il part de plus loin que Deshaun Watson.
C'était le plus brut, ouais. Le joueur a plus polir en l'occurrence que Deshaun Watson. Je te rejoins là-dessus. C'est possible qu'on ait une réponse qui revienne avec insistance. La meilleure chance d'être titulaire, jour 1.
Je sais pas, Trevor Lawrence.
Attends, tu veux dire que Gardner Minshew va être sur le banc? Ah non, mais alors, non, c'est un scandale. C'est un scandale, je suis désolé, Trevor Lawrence ou pas Trevor Lawrence, on ne met pas sur le banc Gardner Minshew, hein, faut être clair. Non, je suis pas d'accord. Non, mais évidemment, Lawrence et Fields aussi. Fields, je pense qu'il est prêt.
Ah voilà, alors, du coup, c'est ça, j'avais trouvé une feinte. Alors, entre Wilson et Fields, alors qui vous voyez avoir Fields. Plus de chances d'être lancé. Alors, si, encore une fois, je le reformule, si vous êtes General Manager, qui vous voyez avoir le plus de chances d'être titulaire entre Wilson et Fields en étant drafté?
Fields, jour 1, alors que Wilson, on en parlait, je crois, dans le top 15, mais moi, je le fais rentrer minimum au milieu de la saison, mais idéalement en deuxième saison. Moi, je lui fais carrément faire une année blanche. Donc pour le coup, Fields.
Ouais, c'est vrai. On va voir, il y a possiblement pas mal de quarterbacks qui peuvent être à couver justement dans cette fameuse mouvance Mahomes. À couver en fonction des franchises éventuellement qui les récupéraient. Du coup, j'avais terminé avec votre tiercé, même si on a plus ou moins compris l'idée. Votre tiercé préférentiel, du coup, sur ce panel, Victor?
Eh ben moi, je vais mettre un peu, je vais épicer ce tiercé, je vais en faire un quintette, parce qu'on en a parlé avec Jean-Mi. J'ai finalisé mes notes de cette saison et je vais rajouter Herbert et Tua dans la boucle pour montrer aux gens à peu près où je les vois. Ça fait ouais. Lorenz en 1, Herbert en 2, j'ai Wilson en 3, Fields en 4, mais ils sont à 0,25 points, et j'avais Tua en 5, mais juste derrière. Donc voilà, moi c'est comme ça que je les imagine. Si on prend en global.
Alors, c'est une très bonne comparaison. Juste, j'en profite pour te poser la question. Du coup, Lawrence, pour toi, c'est au-dessus de Burrow.
Ah oui. Ah oui.
Voilà,
oui.
Si les deux, pour toi, s'étaient présentés en même temps...
Je faisais pas de notes à l'époque de Andrew Luck, mais je pense que à part Andrew Luck, je...
T'aurais pas vu beaucoup de monde au-dessus de Trevor Lawrence en
premier. C'est la plus haute note que j'ai jamais mis pour un quarterback, ça, c'est sûr.
Très bien. Jean-Mi?
Ben, moi, je mettrais Fields avant Wilson, en fait. C'est vrai qu'il a un plancher peut-être plus haut, Wilson, et puis je l'aime beaucoup ce joueur, vraiment je l'aime beaucoup. Mais comme disait Victor tout à l'heure, Fields me paraît plus prêt dès le premier jour. Et donc si on considère le début de la saison 2021, je mettrai Fields avant Wilson quand même. Et après Lawrence, bien sûr.
Très bien. Bah ouais, bah, moi j'allais peut-être un peu plus vers Wilson, mais encore une fois, il y a peut-être cette histoire de la pression de nouveau dont on parlait avec Fields. Hein. De toute façon, c'est ce qui a clairement joué contre lui cette année. Et c'est aussi l'inconvénient, on l'a répété au fil des semaines, d'avoir forcément joué une saison un peu moins conséquente. Forcément, le moindre coup de mou a été vraiment amplifié. Et ça, c'est sûr que ça va malheureusement le poursuivre au cours de ce processus draft. Et c'est ce qui m'amène à avoir un peu plus de doutes, même si en l'occurrence, la polyvalence, elle est criante. Et même si on voit que le mental reste là malgré tout. On a fait le tour sur ce trio de tête, messieurs. On va évoquer dès à présent les trois suivants tout de suite avec Trey Lance, quarterback de North Dakota State, dont je m'en vais tout de suite récupérer les chiffres importants. Donc 1m92 pour 102 kilos. Dernière saison disputée donc en 2019. Il a joué en 2020, mais un seul match, donc c'est un petit peu compliqué de donner une évaluation claire là-dessus. Donc sa saison, en tout cas, 2019, c'est 2786 yards à la passe, 28 touchdowns pour 0 interception, 14 TD à la course également au passage. Donc vraiment une saison canon qui l'a mis clairement sous le feu des projecteurs. On a Mac Jones, quarterback d'Alabama, dont on a un petit peu plus entendu parler en 2020, champion national avec le Crimson Tide, 1m90, 98 kg, 4500 yards à la passe, 41 touchdowns et 4 interceptions. Et on a Kyle Trask donc de Florida, 1m98 pour 108 kg, 4283 yards, 43 touchdowns et 8 interceptions. On va commencer par Trey Lance, messieurs. Alors on avait eu un petit peu l'avis de Victor ces dernières semaines, on sait qu'il aime beaucoup notamment sa précision. Jean-Mi, qu'est-ce que tu penses du phénomène du Bison?
Ben, je rejoins Victor, en fait, parce que tu as donné des stats impressionnantes. Tu vois, en 2019, il lance aucune interception. C'est impressionnant, quel que soit le niveau, même si c'est de la FCS. Mais quand tu regardes vraiment les vidéos, quand tu regardes vraiment les matchs, en fait, il a un problème de précision. Donc, c'est vraiment une limite sur Trey Lance. Alors, il a un gros potentiel. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il est athlétique. J'en pense qu'il a un bras puissant. J'en pense qu'il a un super gabarit pour encaisser les chocs. J'en pense qu'il a une grosse marge de progression. Mais c'est clair qu'il n'est pas prêt du tout. Et notamment pour ce qui est de la précision, que ce soit dans la poche, pour des lancers intermédiaires, mais surtout pour les balles profondes. Parce qu'il a un bras très puissant. Mais alors, ces balles profondes, oh là là, ça manque vraiment de précision.
C'est ça. Victor, en effet, c'est vrai que ça va être... Je ne sais pas si c'est le plus gros pari au poste de quarterback, mais en tout cas, vu la position à laquelle il est attendu, ça reste quand même un risque relatif dans une attaque qui était très axée sur le jeu au sol Et comme le disait Jean-Mi, sur certains matchs où très clairement il était protégé dans le domaine aérien.
Oui, après, c'est marrant parce que c'est un sujet qu'on peut voir avec d'autres, comme avec Mac Jones ou comme avec Zach Wilson. C'est, il avait une excellente ligne, il avait des excellents receveurs, donc qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le système qui l'a rendu meilleur que sa qualité intrinsèque? C'est en effet un pari terrible. C'est une double menace. C'est un corps à la Cam Newton, enfin ce genre de choses, c'est des phénomènes. Mais alors, Cam Newton avait fini numéro 1 de draft et ça sera pas le cas de Zenz, parce qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de maturité. Et en effet, moi, j'ai regardé en fait beaucoup, beaucoup Trey Lance ce week-end parce que je voulais me faire un avis définitif. Et plus je regarde danser, plus je suis inquiet. Que ce soit dans la mécanique ou dans la précision, je ne sais pas si c'est transposable en NFL ou en tout cas.
Pour toi, son environnement est vraiment crucial.
Ah oui. Ah oui. Et le schéma de jeu aussi dans lequel il va être est absolument crucial. C'est pour ça que je me dis que, voilà, même si ce n'est pas le même coaching staff, je me dis une franchise qui a historiquement réussi à travailler avec un quarterback comme ça, donc par exemple les Panthers, je me dis peut-être qu'eux auront la patience de développer et d'en faire quelque chose. Mais je reste très très sceptique et de plus en plus sceptique sur Trey Lance. Et honnêtement, si je me mets en tant que GM, puisque c'était ta question pour le trio d'avant, je n'ai pas envie de prendre le risque.
D'accord. Jean-Michel, tu te verrais quand même le... Alors, Victor l'a dit, il le met cinquième, je crois, derrière Mac Jones. Je ne veux pas trahir tes propos. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Il reste quand même quatrième dans ta hiérarchie personnelle ?
Moi, non. Je le mets cinquième aussi, en fait.
Tu le mets cinquième aussi.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Et je rejoins Victor pour les Panthers. Parce que, par exemple, je vais te prendre une image. À Baylor, Matt Rhule, il avait Charlie Brewer comme quarterback. Alors, je ne compare pas les deux. Les joueurs sont différents. Mais on se rappelle bien de Charlie Brewer qui courait quand même beaucoup. Notamment, lorsqu'il y avait un touchdown à marquer, mais il le faisait au sol. Et je pense que Matt Rhule peut être très à l'aise, justement, avec un quarterback comme ça, comme Trey Lance. Mais ça dépendra, oui, comme il dit Victor, du système.
Il y a un point de chute moi qui m'intrigue beaucoup. Alors, encore une fois, on aura le temps d'en parler, notamment avec les capsules hein, consacrées aux franchises. J'avoue que les Denver Broncos, parce que Trey Lance dans un format un petit peu RPO, on va dire, en tout cas si on veut le protéger dans un premier temps, il n'est pas sans me rappeler le projet Daniel Jones sur lequel avait misé notamment Pat Shurmur, qui est désormais coordinateur offensif de Denver. Et je me dis, même si le succès de Jones chez les Giants reste assez relatif à l'heure où on se parle, il y a peut-être moyen éventuellement que le talent intrinsèque du bonhomme se traduise mieux en NFL que ce qu'on a pu voir avec Daniel Jones, qui sortait pourtant de Duke en étant formé par un excellent coach offensif. Mais peut-être que ça peut être un pari. Mais je vous rejoins, oui, en effet, les Panthers, pourquoi pas. Mais ouais, il y a quand même va beaucoup falloir s'adapter, je pense. Je pense que c'est peut-être plus la franchise qui va devoir aller vers le joueur que l'inverse dans un premier temps, et ça va forcément être à prendre en compte. On en vient à Mac Jones. Victor, tu commençais à en parler tout à l'heure. Forcément, il y a la question, encore une fois, de cet environnement. On nous dit, bon, il avait un casting rêvé autour de lui, justement, pour lui permettre de s'épanouir et d'aller chercher ce titre national. Il faut quand même réussir à l'assumer, cette pression du côté du Tide.
Mais bien sûr. Quand t'es quarterback d'Alabama, t'as une pression de dingue. Et il y a un moment, c'est un argument fallacieux parce qu'on peut l'utiliser pour tout le monde. Hein. Je peux très bien prendre le taux de pourcentage de Justin Fields et dire oui, mais les receveurs de Ohio State, ils avaient 4 yards de séparation à chaque lancé. Donc si on veut vraiment utiliser, oui, bah oui, les meilleurs joueurs sont dans les meilleures universités. Il y a une disparité de niveau qui est beaucoup plus importante qu'en NFL. Donc forcément, quand t'es dans les meilleurs programmes, t'es dans les meilleures équipes. Mais pour autant... il a quand même gagné le titre national cette année. Il a quand même battu des grosses équipes, des grosses défenses. Parce qu'en demi-finale, il affronte Notre-Dame. C'est pas des peintres en défense. En finale, il prend le meilleur. Il exploite les faiblesses de l'attaque adverse avec brio. Moi, ce que j'aime avec Mac Jones, c'est que déjà, c'est un joueur intelligent. Et en plus, c'est pas un bras phénoménal.
Ah non, ça lui-même reproche d'ailleurs.
Oui, mais pour autant, même à longue distance, il est quand même assez précis. Il est assez diversifié dans ses lancers. Donc, c'est sûr que c'est pas Josh Allen. Il va pas balancer une bombe à 70 yards. Mais je sais pas. Je reste quand même très, de plus en plus conquis par sa variété de lancers, etc. Et pour prendre un peu d'image, j'ai envie de dire que c'est un Kyle Trask du riche. On parlera de Kyle Trask après, mais c'est... Non, je sais pas. Je comprends les doutes, et c'est normal qu'il y en ait. Mais plus je le vois jouer, plus je revois les matchs, plus j'ai envie de faire confiance et d'y aller.
Jean-Mi, ton avis là-dessus, alors, c'est vrai qu'on l'a dit, alors, Mac Jones, je trouve quand même qu'il a vraiment mûri au cours de cette saison. On parle beaucoup d'un one-year wonder. Bon, après, il est resté derrière Tagovailoa, hein, c'est pas comme s'il a benché pour... c'est pas Trubisky qui a benché derrière Marquise Williams à North Carolina, si j'aime beaucoup reprendre cette comparaison. Du coup, qu'est-ce qui te plaît pour remettre Mac Jones devant Trey Lance de ce que tu as vu de cette saison 2020?
Bah, il est précis, déjà il est très précis. Et puis il est calme dans la poche, il a plusieurs lectures, il est très fiable, et je rejoins tout à fait ce que disait Victor, c'est-à-dire que les reproches du casting extraordinaire autour de lui, il suffit de voir Joe Burrow l'année dernière, je veux dire, il avait la meilleure ligne offensive à LSU, il avait Jamar Chase, il avait Jefferson, il avait Marshall, enfin bref, si tu regardes Justin Fields, toute la ligne offensive d'Ohio State, elle va finir à NFL. Enfin bref, ils sont tous très bien entourés, mais il n'y a que pour Mac Jones qu'on fait ce reproche-là. Et j'avoue que je ne comprends pas, ou j'ai peut-être une explication, je ne sais pas si c'est la bonne, mais tu vois, par exemple, Mac Jones, il est arrivé à Alabama comment ? Je veux dire, c'était une recrue 3 étoiles, c'était pas du tout une star du recrutement. En plus, même s'il a remplacé Tua en 2019, il a fait 4 bons matchs, mais tu vois, à l'intersaison, tout le monde pensait que ça serait le freshman 5 étoiles, Brassion, qui serait le titulaire. Et puis non, c'est Mac Jones qui l'a battu. Mac Jones a dominé, mais on ne veut pas y croire, parce que voilà, le mec, il n'a pas le profil, il vient d'un peu loin, on ne sait pas trop, on ne veut pas se mouiller, en fait. Mais si tu regardes juste sa saison, juste au niveau sportif, il a été vraiment impressionnant.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, je parlais de Tagovailoa, il y a aussi Jalen Hurts, hein, à un moment donné, qui était devant lui aussi. Bon, il se place là, hein, mine de rien.
Oui, mais quand t'arrives, comme le dit Jean-Mi, hein, quand t'arrives recrue 3 étoiles à Alabama, tu sais qu'il va te falloir des années pour être titulaire. Et si t'es pas sur le portail de transfert au bout de 2 saisons, c'est déjà un exploit. Hein,
et c'est vrai, alors, il y en a qui ont avancé cet argument de dire que Mac Jones, ça pouvait être un Tagovailoa dans l'idée projet, mais ça pouvait être aussi un Jacob Cocker qui avait été il y a quelques années quarterback d'Alabama, champion national avec le Crimson Tide. Mais c'est vrai que c'était pas la même culture offensive à l'époque du Tide. Sauf erreur de ma part, c'était Derrick Henry qui était dans le backfield.
Ouais,
et là,
ça.
Pour le coup, c'était Derrick Henry et Espen Trophy avec un jeu au sol extrêmement appuyé. Là, pour le coup, c'est quand même l'attaque aérienne qui a été en vedette, avec certes un Devonta Smith au poste de receveur qui a marché sur l'eau, mais qui a aussi eu les opportunités de la part de son quarterback, que moi-même j'ai trouvé par exemple en difficulté par exemple sur le début du match contre Georgia, qui était vraiment au tout début de saison. Et après, au fur et à mesure, dans un calendrier, on ne cessera de le répéter, puisque par exemple on insiste sur Zach Wilson et son calendrier, Mac Jones, ça reste de la conférence sec. Donc même si les attaques sont de plus en plus développées, j'ai pas dans l'idée que les stars défensives soient moins bonnes. Et pourtant, il a quand même réussi à prendre ce qu'il était en mesure de récupérer. Donc, c'est ce que je trouve assez fort. Et en effet, je vous rejoins largement. C'est vrai que même si le projet est moins excitant d'emblée, c'est peut-être la marge de progression, pour le coup, paradoxalement, qui peut lui jouer des tours par rapport à un Trey Lance. Mais voilà, on voit peut-être moins de défauts dans son jeu à l'heure actuelle. En tout cas, il y a peut-être moins d'interrogations que Trey Lance. Alors que pour le coup, les deux hommes ont fait chacun une saison énorme. Trey Lance l'année dernière et Mac Jones cette année.
Si tu veux, on parlait un peu des projections d'équipe et tout. Mais par exemple, une équipe comme les 49ers, qui est une équipe où le quarterback n'est pas fondamental, enfin un quarterback toujours fondamental, mais n'est pas peut-être le centre du jeu autant que dans d'autres équipes. On a vu qu'ils sont quand même allés au Super Bowl avec Jimmy Garoppolo. C'est exactement le genre de système où ils pourraient s'épanouir. Ou même aux Panthers, mais dans ce cas-là, les Panthers prennent un paradigme différent de Lens avec reproduire Cam Newton, mais de dire, ok, on a McCaffrey, on a Anderson, on a Moore, et on tente de justement mettre un peu Jones dans un sas de confiance comme il a pu l'être à Alabama. Donc il y a beaucoup d'équipes, même les Patriots, finalement, ils seraient très compatibles avec des schémas de jeu comme a pu le connaître Brady. Donc il y a beaucoup d'équipes où je le vois se fondre dans le système, en fait. Et du coup, je pense que ça va faire monter sa valeur à la draft, puisque les quarterbacks sont pris trop haut à la draft, hein, c'est comme ça, c'est... Enfin, trop haut, entre guillemets,
évidemment. Oui, ils sont
surévalués. Mais ils sont surévalués parce que la position elle-même est la plus importante. Et du coup, plus ça va, plus je me dis qu'il ne passera pas le top 15.
Ouais. Jean-Mi, toi qui es notre expert des comparaisons, À qui il te fait penser, Mac Jones? Moi, j'avoue, j'en avais parlé sur le Slack du site. Je vois quand même des similitudes, avec Matt Ryan. Qu'est-ce que toi, tu en penses?
Ouais, Matt Ryan, c'est bien. Mais je pense que je vais vous faire bondir.
Oula.
Ouais, parce que moi, je vais dire Tom Brady. Alors, je ne parle pas du niveau, évidemment. Je ne dis pas que ça va être le GOAT. Hein. Tom Brady, il n'y en a qu'un. Mais si je prends quelques petits mots-clés, je veux dire, pour moi, Mac Jones, c'est quoi? C'est fiable, précis, calme dans la poche, pas très mobile. Moi, il me fait beaucoup penser à Tom Brady. Hein.
Mais c'est souvent ce qu'on a reproché à Brady, encore une fois. C'est souvent ce qui a créé ce clivage, justement, entre les fans. C'est qu'on a beau trouver que son style n'est pas hyper spectaculaire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Si on met entre guillemets, bien entendu, cette saison 2007 absolument ébouriffante, il n'en demeure pas moins que Brady a toujours été, depuis son arrivée en NFL, hyper chirurgical. Et c'est principalement ce qu'on va vouloir d'un Mac Jones, et c'est ce qu'il a été en l'occurrence du côté d'Alabama. Donc voilà, c'est sûr que tu le dis bien, toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un projet intéressant dans ce côté un peu assassin silencieux.
Ça, c'est le bon côté de la médaille. Et j'avais vu passer sur un média américain le mauvais côté de la médaille. On parlait de Christian Ponder, pour ceux qui s'en souviennent. J'aimais bien cette comparaison. Elle n'est pas exacte, mais dans
l'idée.
Drafté
numéro 8 par les Vikings à l'époque pour le succès qu'on sait. Et il a récupéré Samantha quand même. Mais c'est ça. En tout cas, c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent, Mac Jones. On aimera ou on aimera beaucoup moins, mais en l'occurrence, il y a quand même un projet tout aussi intéressant, même si c'est moins sexy, c'est moins athlétique, c'est moins ce qui peut faire saliver les nombreux scouts de la NFL, mais en tout cas, il y a quelque chose à en tirer. Kyle Trask, donc de Florida, j'en parlais. Victor prenait la comparaison tout à l'heure, Jean-Mi, en évoquant Mac Jones comme un Kyle Trask du riche. Caltra, c'est quand même une belle saison cette année. Il a longtemps tourné dans les chiffres justement d'un Joe Burrow. Ça s'est un petit peu effrité sur la fin de la saison. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un Caltra? Parce qu'il y en a qui en parlent fin premier tour éventuellement pour une équipe qui voudrait tenter un pari également. D'autres qui sont plus vers deuxième, troisième. Dans quel secteur tu te situerais par rapport au joueur des Gators?
Oh, fin de premier tour, ça me paraît pas déconnant, mais sinon c'est vrai, plus deuxième tour, je vais te dire pourquoi. En fait, c'est plus déjà, c'est que dans la poche, je le trouve très très bon. Il lance dans des petites fenêtres, ça pour la NFL, il est déjà prêt pour ça, pour ce type de lancer. Par contre, il a aucune mobilité. Alors zéro quoi, vraiment c'est une statue le gars. Et puis c'est un problème d'irrégularité, c'est-à-dire que bon, même la saison dernière il était pas mal. Hein. Cette année il a fait une super saison, mais parfois il passe complètement au travers. Donc c'est ça le truc avec lui, il est capable de faire de très bons matchs, de faire des lancers très précis là où il faut, mais il a un petit problème d'irrégularité. Voilà, j'ai peur qu'il soit pas super constant au haut niveau. Si tu veux, si je prends une image, moi il me ferait un petit peu penser à Nick Foles. C'est-à-dire, voilà, ce type de quarterback qui est capable de te faire gagner un match, deux matchs, trois matchs, et puis au quatrième, il va se trouver. Et en gros, la perception que j'ai de Trask, c'est qu'il a un avenir à NFL, mais quel avenir? Est-ce qu'il va être vraiment le titulaire pendant des années d'une équipe? Je ne sais pas. C'est possible, mais je ne sais pas.
Ah, c'est ça. Victor,
je
ne
me rappelle pas que Nick Foles se soit troué, mais c'est un autre débat. Mais...
Oui, c'est vrai. Il est jamais allé plusieurs fois aux Eagles d'ailleurs. Non, mais j'aime bien la comparaison de Jean-Mi parce que moi, c'est ce que j'allais dire. On a vu que Kyle Trask, mine de rien, quand il prenait feu en 2020, il n'a pas fait semblant. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu la dynamique de Nick Foles qui, quand il est sur des bonnes périodes,
oui.
On pense à sa période avec les 7 touchdowns sur un match, forcément les playoffs.
27 touchdowns et 2 interceptions sur une saison et tout. Non, voilà. je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le genre de joueur qui prend feu. Mais le feu peut vite s'éteindre. Je cherchais une stat pour appuyer ce que disait Jean-Mi, là, que j'ai retrouvé de PFF. Sur les lancers de moins de 10 yards, il a 67% de réussite. C'est 50e en université. Donc c'est vrai qu'il a, il a parfois cette capacité à manquer des passes faciles, entre guillemets, qui peut être énervant. Mais je rejoins, c'est une statue. Puissance de bras, est-ce qu'elle est si extraordinaire que ça? Bon, là aussi, j'ai quelques doutes. Après, il est beau dans sa diversité de lancer, dans sa mécanique. C'est élégant. Oui, non, pas physiquement. On parle football, monsieur.
Il est assez précis, quand même.
Il n'est pas aussi beau que Jimmy Garoppolo. Non, il est précis. Je pense qu'après, voilà, la puissance pose question. Et moi, il y a un autre truc. Mais alors, peut-être que c'est visuel. Mais j'ai l'impression que sa mécanique est lente. Et du coup, je me demande si en NFL, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à accélérer sa mécanique comme la plupart le font. Et j'ai peur que ça passe pas en NFL.
Ah, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, certains nous diront, c'est le cas avec tous les quarterbacks, mais s'il a une O-line qui est un peu moins en confiance,
c'est ça.
Ça peut rapidement donner un match un peu sale.
Je veux dire, je pense que Trevor Lawrence a à peu près la même vitesse de mécanique en général, mais par contre, quand il a besoin d'accélérer, on le voit qu'il accélère son bras. Il lance beaucoup plus vite. Kyle Trask, alors peut-être qu'il n'a pas eu tellement à le faire non plus, vu l'attaque qu'il a eue, mais on le voit moins faire ça.
Et je vais continuer de vendre du rêve, mais une autre comparaison qu'on pourra donner, je pense, c'est Jay Cutler. Hein.
Oh.
Qui avait ce côté aussi extrêmement explosif, mais qui des fois, ouais, que t'avais l'impression, ouais, qu'il avait pas envie, quoi.
Lanceur le plus prolifique
de l'histoire
des Bears.
T'avais cette impression visuelle. Bon, après, il y avait l'attitude je m'en foutiste sur le bord du terrain, où là, pour le coup, ça se dissocie totalement le Kyle Trask, à mon sens. On a vu vraiment que le quarterback des Gators s'était investi de bout en bout cette saison. Mais ouais, non, franchement, c'est vrai que niveau visuel, ouais, des fois, ça peut un petit peu perturber d'avoir ce côté un petit peu mi-ombre, mi-lumière, à voir donc ce que peut proposer Kyle Trask. On parle des Niners depuis un petit moment. Kyle Trask avec Kyle Shanahan, ça peut peut-être être quelque chose d'assez séduisant, hein, qui sait. À voir. Très bien. Victor, je t'ai pas posé la question. Du coup, pour toi, Kyle Trask, ça se tente au premier tour? Ou tu resterais quand même un peu plus en retrait par rapport à ce profil?
Faudrait vraiment être amoureux. Non, moi, je dirais deuxième, troisième tour. Ouais. Début de troisième au maximum, on va dire. Si Drew Lock a fini deuxième tour, Kyle Trask peut bien finir deuxième tour.
C'est sûr. On a fait tout en tout cas sur le haut du panier, on peut désormais s'intéresser aux autres profils avec notamment les valeurs sûres, les énigmes et les pépites.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Commencer donc par les valeurs sûres. Alors on va le dire tout de suite, hein. C'est vrai que sur la position de quarterback c'est un peu plus dur parce que ça dépend exactement sur quels critères on se place. Jean-Michel, tu avais quand même un joueur qui te rassurait sur certains aspects. Yann Book, quarterback de Notre-Dame, quarterback émérite du Fighting Irish, hein, avec une belle campagne notamment 2020. Alors qu'est-ce qui te plaît chez le quarterback de Notre-Dame et en quoi pour toi il représente une valeur sûre?
Parce qu'il est fiable, voilà. Déjà c'est un gars qui est titulaire depuis je sais pas combien d'années, depuis le début je crois. Il est très fiable, il est précis, il est calme dans la poche, il bouge également dans la poche pour étendre les jeux. C'est quelqu'un qui fait pas trop d'erreurs. Alors je vais le préciser de suite, je parle d'une valeur sûre pour être un remplaçant, un bon backup, voilà. Et il lui manque de la mobilité, il lui manque de la taille, il lui manque un bras puissant pour être vraiment le titulaire. Mais je veux dire, si tu le prends comme un backup, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire une carrière NFL, il peut y rester plusieurs années. Parce que c'est quelqu'un qui va t'apprendre le playbook, qui va l'exécuter. Si ton titulaire se blesse de match, il peut tout à fait reprendre le relais, il fera pas d'erreur. Si ton titulaire se blesse au troisième quart-temps, ben au quatrième quart-temps, tu le fais rentrer, il n'y a pas de problème, il ne te fera pas perdre le match. C'est quelqu'un qui vraiment me rassure à ce niveau-là.
Ouais, Victor, un avis là-dessus. C'est vrai que c'est un gabarit assez costaud, mais un joueur qui s'est resté à sa place quand même malgré tout.
Ouais, bah c'est un excellent leader. C'est le quarterback le plus victorieux de l'histoire de Notre-Dame, peut-être avec Brady Quinn. Je sais pas exactement où ils en sont l'un et l'autre.
Et pas
mais...
en français, Joe Montana. Je te taquine.
Non, mais
je sais. Je sais, c'est statistiquement, t'inquiète pas.
Voilà. c'est un très bon leader. Donc en effet, je pense que ça a l'air d'être un bon gars qui a la tête sur les épaules et en backup, c'est ce dont t'as envie. Après, c'est vrai que bon, c'est pas un joueur extraordinaire. Il lui manque un peu de mobilité, un peu de précision. Il a une mécanique qui est quand même... Alors là, par contre, visuellement, c'est pas beau. On parlait de Trask où c'était élégant. Là, c'est pas beau. Mais bon,
Trask
ça
est
marche.
Un artiste, donc, à côté.
Ben non, mais Philippe Rivers a réussi une carrière en NFL, donc
oui,
tout est possible.
C'est vrai.
Donc, je pense qu'en effet, ça peut être un backup rassurant.
Pour toi, c'est drafté à quel tour à peu près, Yann Book, Jean-Mi?
Oh, c'est le sixième, je pense. Je pense que ça ne sera pas avant quand même. Mais c'est important. Tu sais, je pense à un autre aspect aussi. C'est que si tu as vraiment un bon backup, non seulement c'est important pour ce qu'on a dit, pour les matchs, si tu as une blessure, mais c'est important aussi pour ta semaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fiable, qui c'est un exécutant. Il va vraiment exécuter les jeux. Donc tu peux être sûr que ton receveur 4, 5, 6, ils vont passer une semaine d'entraînement en recevant des bons ballons avec les bonnes routes, les bons tracés, les bons appels. Et ces mecs-là, ils seront prêts quand tu en auras besoin le dimanche. Parce que le dimanche, tu as besoin aussi du receveur 4, 5, 6, du Titan 3, etc. Il faut qu'ils soient prêts, ces gars-là. Et si tu as un mec comme Yann Bou qui les a mis en bonne condition toute la semaine, eh ben, ça rehausse tout le niveau de l'équipe. Donc, mais bon, je dirais, ouais, sixième tour.
Très bien, sixième tour. Oui, Victor était globalement d'accord avec cette projection. On en vient à un sujet qu'adore, on va le dire, nos auditeurs. Hein, parce qu'en l'occurrence, on va parler de joueurs un petit peu en deçà du top 6. Qu'on a évoqué tout à l'heure, des joueurs qui ont une certaine hype, mais qui présentent pas mal de points d'interrogation. Je vais commencer par toi, Victor, notamment, puisque ton énigme, en l'occurrence, c'est Sam Ellinger. Alors, juste pour la précision, je ne vais pas donner les stats pour Yann Book tout à l'heure. C'était 1m83 pour 95 kg, hein, je parlais de gabarit assez costaud malgré tout. 2830 yards à la passe, 15 touchdowns et 3 interceptions. Sam Ellinger, donc ton énigme, Victor, c'est 1m86 pour 101 kg, donc beau bébé quand même. Hein. 2566 yards à la passe, 26 touchdowns, 5 TD. 5 interceptions, pardon, 26 touchdowns, j'ai pas parlé de ceux à la course et il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qui t'intrigue, notamment avec le quarterback des Longhorns?
Encore une fois, là, moi, on a une classe où vraiment le top 6 peut viser la place titulaire. Là, on est plus sur des joueurs qui, déjà, s'ils sont des backups très solides, ça sera déjà une réussite. Après, peut-être qu'un réussira à renverser la table et être titulaire. Mais Sam Ellinger, c'est un leader lui aussi. Dans son programme, il a mené son programme avec brio. C'est un quarterback qui fait peu d'erreurs, je trouve. Dans une situation qui n'est pas toujours facile à Texas, il a fait peu d'erreurs de fumble ou d'interception. Il panique pas. C'est un playmaker, il est agressif, il est capable d'enflammer un match. Tu l'as dit, c'est une double menace en college football. Est-ce que c'est le genre de double menace qui arrivera à transposer en NFL? Je pense pas, honnêtement. Je pense que c'est le genre de double menace qui réussit surtout en college football. Mais bon, il a quand même cette mobilité qui peut être intéressante. Après, c'est sûr que sa précision est pas toujours au rendez-vous. Son jeu dans la poche, parfois, il manque de patience. Justement, comme il sait qu'il a une double menace, il a tendance à tout de suite sortir de la poche pour aller chasser les espaces, etc. Alors que parfois, il aurait juste besoin d'être patient. Mais ça, c'est des choses qui peuvent se coacher. Et après, il n'a peut-être pas une puissance de bras non plus extraordinaire. Mais franchement, Sam Ellinger, il a l'expérience. Hein. C'est, je pense, si je ne dis pas de bêtises, 4 ans hein, à Texas, puisqu'il remplace un quarterback dont on parlera. Et il fait 3 années en titulaire. Donc, non, globalement, c'est le genre de joueur où... Je pense qu'il peut devenir vraiment un bon remplaçant. Il faudra juste qu'il prouve que le système l'a limité aussi et qu'il est capable de faire plus que ce qu'il a montré.
Jean-Michel, moi j'avoue, Sam Ellinger, je l'ai longtemps, j'allais dire caricaturé justement, à toi de me dire si c'est peut-être un peu trop caricatural. J'ai souvent comparé à Colt McCoy, autre ancien quarterback de Texas qui aujourd'hui backup, je crois, aux Giants. Est-ce que justement ça te paraît un peu trop cliché ou est-ce que tu verrais une autre comparaison pour Sam Ellinger ?
Moi je trouve que McCoy est quand même un meilleur lanceur et un meilleur game manager. Moi je sais que Sam Ellinger, je l'aimais bien à Texas parce que comme dit Victor, c'est un leader, rien que le voir sur le terrain c'est beau. Mm-hmm. Mais au niveau du quarterback dans la poche, c'est vraiment pas ça. Oui, c'était une double menace avec Texas, mais en NFL ça le fera pas. Parce que c'est pas ce type-là d'athlète, c'est pas Trey Lance, c'est pas Justin Fields, il n'y arrivera pas. Moi, je sais que j'ai des gros doutes, alors je dis pas qu'il doit pas être drafté, de toute façon, il fera un camp, c'est obligé. Mais ouais, si j'ai le choix, tu vois, je parlais de Yann Book, je prends Yann Book tous les jours avant Sam Ellinger.
D'accord. Quatrième, cinquième tour, ça te paraît une bonne projection, Victor ?
Non, plus loin.
Plus loin encore ?
Je dirais sixième tour.
Très bien, d'accord. Ok, pourquoi pas. Donc pour le quarterback de Texas, Sam Ellinger. Jean-Michel, on va parler de ton énigme. Un autre Texan, d'ailleurs, Kellen Mond, quarterback de Texas A&M, 1m90, 93 kg, 2282 yards, 19 touchdowns et 3 interceptions en 2020. C'est un peu le profil intéressant, mais qui n'a jamais vraiment confirmé du côté de College Station.
Oui, c'est ça en fait, exactement. C'est-à-dire que tu le vois la première année, même la deuxième, tu te dis « Ouh, il y a du potentiel, lui, il peut faire vraiment quelque chose. » Et puis, il ne passe pas tout à fait ce palier-là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est une énigme. Alors après, ce que j'aime bien moi chez lui, c'est qu'il est plutôt mobile dans la poche. En plus, avec Texas A&M, il jouait vraiment dans un style pro-style. Mais après, le truc, c'est que déjà, il n'a pas un bras très puissant. Après, c'est un problème aussi de précision. Et puis, ce qui le limite aussi, je trouve, à Kellen Mond, c'est qu'il cherche souvent le big play. C'est-à-dire que c'est ce type de joueur qui va en réussir, évidemment. Il va trouver des gros jeux. Mais il a tendance à un peu trop les chercher. Ça amène à des erreurs. Ça amène à beaucoup d'irrégularités. Donc, c'est une énigme dans le sens où, avec un bon coaching, avec du travail, dans un bon système, ça peut faire quelque chose parce qu'il a quand même de sacrées qualités. Après, il y a quand même beaucoup de travail.
On parlait du casting favorable tout à l'heure de Mac Jones. J'ai pas dans l'idée que Kellen Mond n'ait pas eu un mauvais casting. Certes, il a eu des receveurs blessés, mais il a quand même eu un bon backfield offensif, une ligne offensive plus que solide. Donc c'est vrai qu'il n'ait pas eu cette éclosion, ça pose un peu question. T'as un avis sur Kellen Mond, Victor ? Qu'est-ce que t'as pensé justement J'allais dire pétard mouillé, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais encore une fois, est-ce que tu faisais partie de ceux, en tout cas, qui attendaient beaucoup plus que ce qu'on a vu ces derniers mois du quarterback?
Oui, tous les ans, on a l'impression qu'il va le faire, qu'il va avoir son année vraiment explosion, et en fait, ça n'arrive jamais. Il a la mobilité, il a vraiment, athlétiquement, c'est un beau bébé, il est intelligent, mais voilà, il manque ce petit truc, et puis à précision, notamment à précision en dehors des nombres, qui est quand même assez préoccupante. Enfin, il balance quand même des sacrées saucisses. Donc moi je suis frustré par ce joueur, comme beaucoup. Tous les ans, je me dis pourquoi pas, et puis finalement, non.
Très bien. Ta projection, Jean-Michel, pour quelle demande ?
Oh, peut-être fin 5e, 6e tour, quelque chose comme ça. Ça sera de toute façon en fin de draft. Mais,
Il y a un gros écart.
Il y a un énorme gap. Ouais. Je pense que cette année, il y a un vrai énorme gap entre le haut du panier et le bas du panier.
Et bien moi, mon énigme, c'est Jimmy Newman, quarterback de Wake Forest ou de Georgia, vous le mettrez où vous voulez. En l'occurrence, les dernières références qu'on a, c'est du côté de Wake Forest, 1m92 pour 107 kg, avec les Demon Deacons, c'était 2868 yards, 28 touchdowns et 11 interceptions donc en 2019, puisque c'est un joueur qui s'est mis en retrait cette saison. Profil qui n'est pas sans rappeler notamment par exemple celui d'un Sam Ellinger. Au départ, c'est un quarterback relativement mobile, Jimmy Newman. Un peu plus carré quand même, un peu plus costaud, très très clairement. Et on a vu, c'est aussi ce qui a fait monter sa cote auprès des équipes NFL, une capacité notamment à se montrer dangereux dans le domaine aérien, bien aidé par Sage Surratt, le receveur de Wake Forest en 2019, avec notamment un bras qui n'est pas inintéressant, une capacité notamment à être dangereux dans le domaine profond. Donc c'est vrai que c'est un profil qui reste assez intriguant parce qu'il y a cette mobilité, parce qu'il y a cette capacité à être dangereux, même si le style offensif de Wake Forest et pas forcément hyper varié. Donc c'est plus là-dessus ou en termes de lecture, de QI foot, on est peut-être un peu moins rassuré parce qu'on se dit que dès qu'il va falloir voir quelque chose d'autre face à une défense beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus menaçante, c'est là où ça risque de se gâter un petit peu plus, surtout avec un an loin des terrains. Et c'est vrai que là-dessus, Jimmy Newman, il y a un point d'interrogation. Il s'est présenté à Georgia en voulant franchir une étape. Finalement, il s'est mis en retrait, j'imagine, en pensant que JT Daniels, notamment, allait prendre le dessus. Et on a vu en début de saison que Daniels n'était pas encore là. Donc, c'était peut-être aussi une occasion manquée de justement rassurer peut-être des scouts sur certains domaines. Et voilà, il y a ce point d'interrogation. Pour moi, ça en fait inévitablement une énigme. Je continue de penser que son côté athlétique peut en faire potentiellement un 4e, 5e tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, Jimmy Newman, c'est un gros, gros point d'interrogation de par son parcours, de par son émergence relativement tardive et de par ce qu'on en attend concrètement en NFL.
Non, je te rejoins. Je pense que s'il y en a un qui doit percer au 4e tour, ce sera lui dans les trois dont on a parlé. Je rejoins tes inquiétudes, notamment sur le schéma de Wake Forest. C'est quand même très peu projetable en NFL, si on le dit comme ça. Et j'ai pas compris ce opt-out. Je suis désolé. Autant les mecs qui étaient projetés top 15, ils font un opt-out. Ok, bon, tu veux solidifier ta cote. T'as pas envie d'avoir une blessure qui met fin à ta carrière alors que t'es projeté top 15. Tu te protèges, t'as raison. J'aurais fait pareil à ta place, t'es pas payé. Il y a d'autres joueurs qui ont eu des vraies raisons intimes comme Kenneth Gainwell où ça s'explique. Peut-être que lui, il y a des raisons qu'on connaît pas. Hein. Il a peut-être des très bonnes raisons d'avoir pris et dans ce cas, ça expliquerait ce choix. Mais si c'était un choix stratégique, à mon avis, c'est vraiment une mauvaise décision.
Jean-Mi?
Ouais, vous avez tout dit. Je veux dire, toi Grégory, effectivement, c'est quelqu'un qui est très athlétique, qui sait courir, qui a même un bon placement de balle, notamment sur les balles profondes. Mais tu as parlé aussi du système de Wake Forest, qui est quand même très limité. Et puis alors, ce opt-out, c'est vraiment le renoncement qu'on n'a pas compris, parce que justement, c'était là pour lui l'occasion d'aller à Georgia, donc d'être dans un autre système, d'être vraiment pour jouer le titre, avec de la pression, avec vraiment une autre exposition. Il a vraiment raté cette occasion-là, donc du coup, c'est clairement une énigme, oui.
Ouais, donc à surveiller, mais ouais, ça va peut-être éventuellement... Son profil va peut-être lui permettre de se sauver un petit peu, d'avoir un rôle peut-être assez intéressant. Pourquoi pas sur des positions goal line ou ce genre de choses pour essayer de surprendre un petit peu l'adversaire dans un premier temps. Mais ouais, pour l'instant, ça reste encore difficile à évaluer au premier abord. On termine avec les pépites, messieurs. On va, pour certains, revenir sur des joueurs qu'on avait déjà évoqués dans le podcast hebdomadaire. Mais on va commencer justement par un joueur dont on avait précédemment parlé, toi-même, justement, Jean-Michel. Et un joueur sur lequel je te soutiens, c'était ma pépite également, Shane Buchel, quarterback donc de SMU, ancien quarterback de Texas, à la lutte avec Sam Ellinger. 1m86 pour 94 kg, 3095 yards, 23 touchdowns et 6 interceptions en 2020 avec les Mustangs. C'est un joueur qui a su se renouveler, entre guillemets, en tout cas se développer un peu plus dans un style explosif avec Southern Methodist.
C'est ça, explosif, comme tu dis, et puis improvisation, tu vois. Alors, c'est pas Zach Wilson, mais c'est quelqu'un qui arrive vraiment comme ça à étendre les jeux, à improviser, à faire des lancers que tu n'attends pas. En plus, même s'il n'a pas un grand gabarit, il a vraiment un bras très puissant pour les balles profondes. Il est très bon. Il a beaucoup de qualités. Après, il est très, très inconstant. C'est ça le souci avec lui. Il est vraiment très inconstant. Il manque de fiabilité. Quelque part, moi, quand je le voyais jouer, il me faisait penser un petit peu à Garnett Minshew, mais moins fiable. C'est-à-dire que Minshew est quand même beaucoup plus fiable. Et c'est ça le problème de Shane Buchel. C'est, voilà, il peut improviser, lancer des bonnes balles, mais ouais, c'est irrégulier.
Ah, c'est le souci, de toute façon, c'est système offensif. Hein. Moi, je le dis encore une fois, je ne me cherche pas d'excuses très concrètement. Pardon. C'est aussi ce qui faisait, par exemple, que j'étais sceptique pour Mahomes à la sortie de NCAA. C'est que, ouais, c'est hyper spectaculaire à voir au college football, mais c'est vrai que ça te pose des questions sur la manière dont les joueurs peuvent s'adapter une fois que c'est un peu plus posé. Et là, encore une fois, même si ce n'est pas comparable avec l'exemple que je viens de prendre, mais c'est vrai que Buchel avec SMU, voilà, c'était en effet hyper spectaculaire. Et SMU, sous la coupe de Buchel, a vraiment été un acteur principal. Hein. SMU, d'ailleurs, on le rappelle, joue un joueur français, hein, Junior Ao, defensive end des Mustangs. Donc, très franchement, ça a été bénéfique malgré tout pour cette attaque. Tu l'as pas dit, mais il me semble avoir aperçu aussi qu'il y avait quand même un taux de drop de la part de ses receveurs
oui,
qui était assez conséquent.
11,2, c'est énorme.
Voilà.
C'est énorme.
Ouais, ouais. Et il a aussi composé avec pas mal de blessures. Hein. James Prochet, par exemple, qui a été drafté par les Ravens l'année dernière, ça a été saison blanche prématurément. Pareil pour Reggie Robertson, qui était un top receveur cette année. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a pas non plus composé avec une énorme chance, qui a perdu son running back cette année aussi, et qui malgré tout a réussi à rester compétitif. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être plus au niveau du mental ou de la capacité à se remettre en question, en effet, où là, il va falloir surveiller. On est presque sur du mi-pépite, mi-énigme. Si je peux reprendre l'expression, mais en tout cas, il y a un gros potentiel. Tu nous rappelles ta projection pour Shane Buchel ?
Oh, sixième tour aussi, hein, c'est vers là.
Très bien. Victor, t'as un avis sur Buchel ?
Vous m'avez piqué tous mes arguments, là. J'ai plus rien à dire. Le taux de drop, les blessures, les schémas R-RED et la transposition NFL, vous m'avez tout pris. Passons à ma pépite.
Très bien. La pépite qui vient de Californie, en l'occurrence, Davis Mills, quarterback de Stanford, 1m95 pour 100 kg. Ses stats à la tête du Cardinal, c'est 1508 yards, 7 touchdowns et 3 interceptions. C'est pas des stats faute folle. On le rappelle que la Pac-12 cette année a été plus qu'impactée, hein, avec un nombre de matchs extrêmement réduit. Malgré tout, Davis Mills force tranquille, hein, on dira, au sein de cette attaque de Stanford. Arrivé un petit peu sur le tard, qu'est-ce que tu y vois comme potentiel ? Est-ce qu'on a affaire à un Kevin Hogan bis ?
Oh.
Question provoque pour commencer.
Ah ouais, non mais alors si t'orientes tes questions aussi, là c'est pas gentil pour moi.
Pardon.
Mais non, c'est vrai que là on est sur du pari et quand je dis sleeper, c'est sleeper pour devenir un bon backup. Hein. C'est là, alors là vraiment.
Oui, bah on n'annonce pas.
On n'annonce pas des titulaires en puissance. C'est un joueur qui a eu en effet très peu l'occasion de s'exprimer parce qu'il joue 8 matchs en 2019, il joue 5 matchs en 2020. Donc c'est quand même un échantillon. Même Trey Lance a joué plus de matchs, c'est dire. C'est vous dire si l'échantillon est réduit. Mais moi j'aime bien, c'est le genre de joueur qui n'a pas peur. Il n'a pas peur, il a la puissance, il a la précision, il a le QI football. Il a un peu le même problème que Trask, c'est que c'est un peu une statue quand même. Hein. Ça, il ne faut pas lui demander de bouger parce que sinon ça sera compliqué. Et il va falloir qu'il fasse gaffe avec la protection du ballon. Parce que c'est très, sa production en termes de fumble, c'est, à mon avis, il s'est entraîné avec Carson Wentz. Mais c'est préoccupant. Mais enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment le genre de... Il a les fondamentaux. Il a la puissance, il a la précision. Mais il va falloir le développer. Alors vraiment, ces joueurs, tu le prends aujourd'hui au 7e tour en undrafted et il deviendra peut-être un bon backup dans 3 ans. Hein. Lui, il peut passer 1 an ou 2 ans en practice squad, que ça ne me choque pas. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à y trouver chez lui. Et il y a ce côté tête brûlée qui n'a pas peur. J'aime bien ça.
Très bien. Jean-Mi, t'as un avis sur Davis Mills ?
Ouais, bah, le même à peu près. C'est-à-dire que son plus gros atout pour moi, c'est que c'est... un lanceur depuis la poche. C'est vraiment un joueur de la poche. Et ça, c'est bien pour la NFL. Et il reste dans sa poche, il lit les tracés des receveurs, il est plutôt précis. Après, voilà, les soucis, c'est qu'il fait quand même pas mal d'erreurs. Et puis, alors, comme tu disais, niveau mobilité, c'est une catastrophe. Et puis, ce manque de régularité, en fait, si tu veux, moi, il m'a fait penser à quelqu'un, vous allez tout de suite comprendre, quoi. Il me fait penser à Blake Bortles.
Ah, bah, il va aller en finale
de grand gabarit. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire ce genre de gars voilà, qui a un bon bras, qui reste dans la poche, qui sait être précis, mais qui, sur le jeu d'après, te fait une connerie mais énorme. Enfin, voilà. Donc, y a du matos, effectivement. Tu peux le faire travailler, on ne sait jamais, et ça peut se développer. Mais bon, après, comme tu dis, c'est un sleeper, à voir.
Et... Très bien. Je me rappelle plus, ta projection, c'était quoi, Victor ?
Septième tour ou undrafted. Et 11% de taux de drop lui aussi. Il fait partie de cette. Ils sont 3 ou 4 en université, mais on vient d'en donner 2 qui n'ont pas été aidés par leurs receveurs.
Bah après, l'attaque de Stanford, ça rendait un peu moins de rêve que l'attaque des SMU en l'occurrence. Et c'était encore plus inquiétant.
Comme tu l'as dit, j'ai du mal à juger les joueurs de Pac-12 cette saison, parce que c'est cette saison en 5 matchs un peu bizarre où l'équipe qui a remporté la Pac-12 n'a remporté ni sa division. Enfin bon, on est dans une année assez particulière. Donc.
C'est sûr.
Mais tu vois, Davis Mills, c'était vraiment une très grosse recrue. Lui, quand il est arrivé, on s'attendait vraiment à ce qu'il flambe, à ce qu'il vraiment qu'il réussisse. En plus de ce que tu as décrit, tu vois, il a vraiment du potentiel pour être vraiment ce lanceur depuis la poche. Et puis non, quoi. Même s'il a pas beaucoup joué, ok, mais sur ce qu'on a vu, ça a pas cliqué, quoi.
C'est sûr. Bah, en tout cas, on suivra ça au cours des prochaines semaines. Encore une fois, ça reste un poste hyper sexy, hyper glamour sur lequel on n'a pas fini de s'intéresser, ce poste de quarterback. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été en ma compagnie pour parler de ces joueurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Victor et Jean-Michel notamment sur Twitter avec sur les comptes @VictorRoulier et @Zappa13009. Si je me rappelle bien.
C'est ça, c'est ça.
Le Radio SA pour me suivre également. Restez bien connectés donc, sur les antennes de Touchdown Actu avec notamment la preview Running Back qui arrive dans quelques
jours.
Avec peut-être des voix connues que vous retrouverez. En tout cas, merci encore messieurs et on se retrouve très vite donc pour continuer d'analyser ensemble cette draft 2021.
Merci.
Salut à
beaucoup.
Tous.
Ciao. Ciao à tous.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.